Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin sur RTL. Merci pour votre fidélité à Nous Voilà Bien. Et si vous découvrez l'émission, eh bien bienvenue à vous. De 9h15 à 10h, on va parler conso, santé, alimentation, avec les conseils et les astuces de nos invités pour mieux vous faciliter la vie. C'est parti. Les courses sur Internet se sont multipliées ces dernières semaines. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du e-commerce? Va-t-il supplanter les achats en boutique? Armelle Lévy, journaliste au service Écho de RTL, lève le voile sur ce mode de consommation. Le nombre de téléconsultations médicales a explosé, confinement oblige. Alors, les téléconsultations sont-elles efficaces et vont-elles devenir monnaie courante? Benjamin Daurier, rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs, va tout nous expliquer. Et puis, la semaine dernière, nous mettions à l'honneur le café, mais certains préfèrent un autre breuvage consommé par 6 Français sur 10, c'est le thé. Tea time avant l'heure, en fin d'émission, avec la spécialiste Christine Dattner.
Issa ! Issa !
Et justement, on accueille tout de suite Armelle Lévy. Bonjour Armelle, merci d'être avec nous en ce samedi matin.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service Écho de RTL, Armelle Lévy. Alors, avec la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, est-ce qu'il y a un boom des achats en ligne? Évidemment,
oui.
Je dirais.
Oui, c'est clair. Hein. Sur l'alimentaire, au mois d'avril, on a vu 7,5 millions de foyers faire leurs achats en ligne. Un foyer sur quatre, selon l'Institut d'études Nielsen. Cela veut dire qu'il y a eu, pour les supermarchés en ligne, autant de clients sur un mois que sur une année complète. C'est du jamais vu. La part de marché du e-commerce alimentaire, avant, c'était 5-6%. Et là, on a dépassé les 10%. Et maintenant, les courses en ligne séduisent bien au-delà des familles qui représentaient jusqu'à présent la moitié du chiffre d'affaires du drive. Pendant le confinement, ce sont 1 200 000 Français qui s'y sont mis, qui ont découvert les courses en ligne, et pour moitié des retraités. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau.
Ouais, c'est inédit. Ouais.
Autre phénomène très marquant, cette fois, c'est la Fédération du e-commerce qui l'a noté grâce à une enquête Médiamétrie. Avant le confinement, la plupart par des achats en ligne se faisait depuis son téléphone mobile. Mais maintenant, quand on achète en ligne, c'est depuis son ordinateur portable à la maison.
Oui, donc c'est vraiment rentré là dans ces nouvelles habitudes. Qu'est-ce qu'on a commandé le plus sur Internet pendant le confinement?
Alors, on s'est rué sur les cartouches d'encre.
Je connais.
Oui, les imprimantes.
L'horreur.
Les ramettes de papier dont les ventes ont été multipliées par 5. Il fallait s'équiper pour le télétravail et pour l'école à la maison. Et comme il fallait aussi occuper les enfants, les ventes de DVD, jeux vidéo, puzzles, jeux de société et les livres parascolaires ont été multipliés par 5. En ce moment, il y a un gros frémissement sur les machines à pain. Je ne sais pas si vous faites du pain à la maison, mais...
Oui, j'ai essayé, mais sans machine, et c'était une catastrophe. Mais c'est vrai que tout le monde s'est mis à faire la bouffe, en fait.
Exactement, donc tout le petit électroménager. Les ventes de congélateurs aussi ont été multipliées par 10, là, pendant le confinement, pour tout stocker. Et aujourd'hui, on note une grosse demande de climatiseurs pour se préparer aux grosses chaleurs de l'été.
Alors, et l'alimentaire, alors?
Alors voilà, si on regarde l'alimentaire, normalement, on drive le panier moyen. Pour les commandes en ligne, c'est 80 euros. Mais là, pendant le confinement, on a vu des paniers à 600, 700 euros avec le riz, les pâtes, le papier toilette, les œufs, la farine. Et habituellement, les couches et l'alimentation infantile représentent un quart des ventes en drive. Là, c'est encore plus fort, ce qui prouve bien que le drive reste quand même le mode d'achat préféré des familles avec enfants. Mais là où les comportements ont vraiment changé, la grosse différence, c'est pour les produits frais. Avant le confinement, les Français n'achetaient pas de fruits et légumes, de viande ou de produits de boulangerie sur Internet. Ils détestaient ça, parce qu'ils aimaient voir ce qu'ils achetaient, toucher les produits. Mais depuis le coronavirus, la boucherie, boulangerie et les fruits et légumes sont devenus des rayons plus forts en achat en ligne, justement parce qu'on se dit qu'on n'a pas à manipuler les produits.
Mais alors, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on peut tout acheter sur le net.
Ah non. Alors attention aux médicaments. Ceux qui sont vendus sur ordonnance, vous ne pouvez pas les acheter en ligne. En plus, il y a plein de contrefaçons. En ce moment, vous trouvez beaucoup de faux sites de pharmacie qui vendent des masques et des gels. Soit ils sont de mauvaise qualité, vous prenez un risque, hein, vous vous sentez protégé, mais ils ne sont pas du tout sécurisés. Ou soit vous ne serez jamais livré. Certains proposent également du paracétamol, mais sa vente en ligne a été suspendue. Ce sont des sites frauduleux. Il y a aussi tout plein de remèdes miracles. Des lampes à UV pour désinfecter les masques ou des compléments alimentaires ou des huiles essentielles pour se protéger contre le coronavirus, ce sont des charlatans. D'ailleurs, toute présentation de produits affirmant protéger ou guérir du coronavirus relève de la pratique commerciale trompeuse.
Voilà, donc ça, il faut vraiment le savoir et on alerte nos auditeurs sur ces nouvelles arnaques hein, qui sont nées avec l'épidémie de Covid. Il est possible de passer commande partout en France parce que les livraisons, elles couvrent tout le territoire ou c'est plutôt réservé aux urbains?
Alors, le confinement a créé de gros problèmes logistiques. Donc, la livraison en une heure pendant le confinement, hein, il fallait oublier, c'était plutôt une semaine. Vous commandez votre panier et hop, au moment de valider et même à la réception des paquets, il manquait plein de produits. Il y a eu beaucoup de ratés. En temps normal, le taux de rupture sur les commandes en ligne, c'est 6%. 6 fois sur 100, vous ne trouvez plus le produit. Là, c'est monté à 40%. 40 fois sur 100, vous ne trouviez pas le produit. Donc, c'était ponctuel, mais c'était impressionnant. Les grandes surfaces ont dû vraiment s'organiser. Mais effectivement, on ne pouvait pas tout acheter en ligne. Il fallait compléter par des achats en magasin physique.
Est-ce qu'il y a certains Français qui sont encore frileux à l'idée de faire des achats sur Internet ou est-ce que finalement cette période a conquis tout le monde?
Non, on l'a vu encore cette semaine avec EasyJet qui s'est fait pirater les données personnelles de ses clients. Mais en cas de piratage, il faut bien vérifier ses comptes et signaler à sa banque tout mouvement suspect. Il y a aussi plein d'arnaques, du phishing, de l'hameçonnage, des faux mails pour vous soutirer des informations. Par exemple, il y a une fausse annonce du gouvernement qui circule qui offre à chaque Français un kit anti-coronavirus avec du gel et des masques. Pour cela, il faut envoyer une photocopie de sa carte d'identité et son numéro de carte bancaire. N'importe quoi. C'est pour vous pirater votre carte. Gare aussi aux fausses cagnottes solidaires, également pour aider les soignants. Assurez-vous toujours de l'identité du professionnel et de la destination de vos dons.
En fait, quand on vous demande spontanément votre numéro de carte bancaire, c'est qu'il y a une fraude.
Il ne faut pas la donner.
On ne le fait que lorsque l'on doit soi-même acheter quelque chose et que c'est une démarche personnelle. Les avantages du e-commerce, c'est quoi? C'est super pratique.
Exactement, c'est super pratique. Et en cette période de coronavirus, vous n'avez pas de contact avec l'extérieur, vous ne touchez à rien, pas besoin de mettre un masque pour sortir, vous êtes sur votre canapé, vous avez sans bouger un univers infini de boutiques qui s'offrent à vous. Vous pouvez comparer les modèles, les prix en un clic. Et même pas besoin d'habiter à côté d'un magasin pour commander, vous êtes livré à la maison. Que demander de plus, finalement?
Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients quand même à tout ça? Moi, il me manque les gens, il me manque la caissière. Quoi.
Exactement. Et on a vu en fait qu'on était très dépendant des produits importés, des produits d'Asie, mais on n'a pas manqué de nourriture parce qu'on a des producteurs et des industriels français très bien implantés pendant cette crise. Et on a vu que c'était notre force. Donc, cela a renforcé aussi notre envie de local, de produits fabriqués à côté de chez nous, de circuits courts. Le risque d'Internet, c'est que cela profite qu'aux gros, en laissant sur le côté, tous les petits, tous les indépendants. Et puis en même temps, sur Internet, vous l'avez dit, vous n'avez pas de vendeur pour vous conseiller. Il n'y a pas d'humain.
Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'humain. Et puis effectivement, je pense aux commerces de proximité qui ont fait comme ils pouvaient aussi pour assurer pendant ce confinement. Le e-commerce, ça fait beaucoup de mal justement à ces petits commerçants qui sont en bas de chez nous.
Par exemple, tous les ans, maintenant, vous savez, on a les French Day, une campagne de promotion initiée par les grands groupes du e-commerce. Cela devait être fin avril, c'est reporté à la semaine prochaine, du 27 mai au 2 juin. Préparez votre carte, elle va chauffer. Mais les petits commerçants qui ont fermé pendant 2 mois n'ont pas la même trésorerie. Ils ont besoin de vendre avec de la marge pour payer leurs charges et remonter la pente. Et là, eux, ils dénoncent ce qu'ils appellent une campagne assassine pour le petit commerce.
Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on a remarqué et que l'on retrouve vraiment sur tous les réseaux sociaux. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Ahmed Lévy, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser et certains s'interrogent sur les prix des produits en ligne. Est-ce que ce sont vraiment les mêmes qu'en boutique? Vous allez nous apporter la réponse tout de suite. Ce sera la suite de Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous Voilà Bien, Flavie Flamand.
Oh là là, vous allez en apprendre des choses encore aujourd'hui jusqu'à 10h sur RTL. Dans Nous Voilà Bien, on va parler des téléconsultations avec Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Et vous apprendrez tout sur une boisson formidable qu'est le thé. Mais pour l'heure, on poursuit justement notre voyage au pays du e-commerce.
Et le produit de l'année.
Poursuit donc pour l'instant notre conversation avec Armel Lévy, journaliste au service éco d'RTL. Armel, vous nous parlez du e-commerce, on l'a compris, les achats en ligne, ça a été un véritable boom pendant le confinement et apparemment ce sont des nouvelles habitudes avec ces avantages que vous nous avez expliqués, ces fraudes, attention, et puis ces inconvénients. Et puis on se disait il y a un instant que ça peut faire du mal aussi aux petits commerçants de proximité. Mais alors maintenant les prix, est-ce que ça fait plus mal au porte-monnaie? Les prix des produits en ligne sont-ils les mêmes qu'en boutique?
Alors en fait, c'est c'est rigolo, pas forcément. Vu qu'en ligne, vous pouvez comparer les prix des différentes enseignes, elles ont intérêt à afficher le prix le plus attractif pour avoir une meilleure image et pour ne pas nuire non plus à la fréquentation en magasin. Sauf que dans les villes, vous avez plein de supermarchés de proximité qui ont des loyers plus chers, des frais logistiques plus chers et donc qui vendent des produits plus chers. Mais en réalité, si vous commandez en ligne sur le site d'une grande surface, vous payez au prix de l'hypermarché. Et même si vous allez à pied récupérer votre commande livrée dans votre supermarché de quartier, eh bien vous aurez payé moins cher en achetant en ligne que si vous aviez fait vos courses dans ce même supermarché.
Ah oui, donc ça c'est super attractif. Mais je pense aux promotions par exemple, j'ai pas l'impression qu'elles soient les mêmes en ligne ou en magasin.
C'est vrai, les grandes enseignes alors ont des prospectus pour vous inciter à venir en magasin, profiter de leurs promotions, mais il y a aussi plein de promotions proposées exclusivement sur le web et vous avez des sites spécialisés, des sites dédiés dans le repérage des bonnes affaires sur internet. Mais dans tous les cas, un petit rappel quand même. Ne vous laissez jamais influencer par le rabais annoncé, moins 40%, moins 50%, ça ne veut rien dire. Regardez toujours le prix final que vous allez payer. Et avant d'acheter en ligne, regardez aussi toujours les délais de livraison. Okay. Le délai doit être indiqué, sinon c'est maximum 30 jours. Et vérifiez toujours aussi les frais de livraison. Un produit peut paraître moins cher au départ, mais boum, vous avez la surprise, il s'ajoute juste au moment de payer.
Et en plus, vous ne verrez pas votre commerçant. Et en plus de ça, vous ne pourrez pas saluer le caissier ou la caissière. Comment est-ce qu'on s'assure que le paiement en ligne est sécurisé? Ça fait partie des inquiétudes de certains de nos auditeurs.
C'est vrai, il faut regarder le petit cadenas au moment d'entrer votre numéro de carte bancaire. Il garantit que votre paiement est sécurisé. Mais regardez aussi qui est derrière le site. Si vous achetez sur un site étranger, vous n'aurez pas les mêmes garanties, pas les mêmes protections du consommateur que sur un site européen.
Allez, dernière question, Armelle Lévy. Le e-commerce dont on parle, est-ce que ça va prendre encore plus d'ampleur et supplanter nos achats en boutique, puisqu'on parlait de l'inquiétude des commerçants de proximité? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut s'interroger sur notre nouvelle façon de consommer?
Oui, mais c'est pas sûr du tout, parce qu'en France, on a un maillage, un réseau très développé de magasins. On est attaché à tous nos petits commerces. On est content de les retrouver quand ils ouvrent et on en a découvert plein d'autres en bas de chez soi, dans un rayon d'un kilomètre quand on était confiné. Mmh. Ce qui va se développer, c'est vraiment, en fait, le multicanal, un réseau physique et digital qui s'épanouissent ensemble. N'oublions pas que Carrefour, par exemple, c'est le premier employeur privé en France. Il a aussi derrière un enjeu crucial en termes d'emploi. C'est complémentaire, le physique et le digital.
Merci beaucoup Armelle Lévy. Est-ce que pendant le confinement, vous avez fait de la téléconsultation? Parce que c'est ce dont on va parler dans un instant.
Non. Mais
pas encore?
Non, pas encore, non.
Eh ben, vous restez à notre écoute, car justement, Benjamin Dourier, qui est rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs, va tout nous dire sur la téléconsultation. Et puis ensuite, on se prendra un petit thé. Je me réjouis. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous, Armelle Lévy. À très bientôt sur RTL. Merci d'avoir été avec nous ce samedi matin.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Allô?
Bonjour docteur, la Noiraude à l'appareil.
Allez. Avouez la Noiraude que vous n'avez pas le courage de vous baisser.
Vous avez déjà mangé de l'herbe, docteur? Alors qu'est-ce que vous en savez? Venez donc brouter un jour avec moi et on en reparlera.
Que de souvenirs avec la Noiraude. Est-ce que vous vous en souveniez justement, Benjamin Dourier?
Non, j'avoue que ça m'était sorti de la tête.
Vous êtes passé à côté de la Noiraude. Mais alors écoutez, extraordinaire quand même, parce que la Noiraude célébrissime vache tout le temps malade. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Benjamin, merci d'être avec nous. 60 millions de consos qui consacrent un article aux téléconsultations dans son numéro en kiosque. Il y a eu un boom, ça a été un phénomène, je dirais, ces dernières semaines. C'est quoi exactement une téléconsultation?
Une téléconsultation, c'est tout simplement une consultation à distance avec le médecin qui peut être soit à quelques kilomètres ou même à l'autre bout de la France. Et on échange avec lui. Le plus souvent, ça se passe en vidéo, donc par smartphone ou avec une tablette ou un ordinateur doté d'une webcam, puisque en vidéo, ça permet donc à la fois de voir le médecin et ça lui permet à lui de vous voir.
D'accord, mais c'est pas un peu antinomique cette histoire-là, une consultation médicale en visio? Il manque plein de choses finalement pour consulter.
Alors c'est vrai qu'on n'était pas habitués tous, autant patients que médecins, même si ça existe, ça a été lancé, encadré par l'assurance maladie depuis fin 2018, mais ça surprend encore parce que c'est pas encore entré dans les mœurs, ou alors ça l'est justement depuis quelques semaines à la faveur de l'épidémie, puisque l'usage a vraiment explosé, vous l'avez dit, et c'est vrai que quand même ces dernières semaines, je sais pas si vous l'avez expérimenté à titre personnel, mais on on s'est rendu compte que dans de très nombreux cas, ça peut convenir, ça peut suffire, j'allais dire. C'est une consultation qui, du coup, repose effectivement sur le dialogue avec le médecin. Et il y a un certain nombre de cas où ça convient parfaitement. Par exemple, quand il faut décrypter des résultats d'examens médicaux, ou alors pour le suivi d'affections chroniques, par exemple, le dialogue avec le médecin fonctionne très bien.
Oui, peut suffire. Est-ce que tous les praticiens peuvent la proposer ou est-ce que c'est uniquement réservé à une catégorie de médecins?
Alors, c'est pas forcément réservé à certains médecins, mais c'est vrai que naturellement, c'est plus adapté, notamment aux consultations avec les médecins généralistes. Alors, pas toutes les consultations avec les généralistes, mais en tout cas, les spécialistes, c'est parfois plus compliqué, notamment certains spécialistes. Je pense aux ophtalmos où il y a forcément une auscultation. Si on vous fait un fond d'œil, c'est sûr qu'on va pas le faire à distance. Je sais pas, les gynécos aussi. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de spécialistes pour lesquels, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, plutôt pour les généralistes, même s'il y a aussi quelques spécialistes, par exemple, les dermatos, ça peut arriver pour certains types de soucis, qu'une consultation à distance puisse être possible.
Quels sont les avantages de la télémédecine?
Alors sur les dernières semaines, naturellement, l'avantage premier, c'est qu'il n'y avait pas besoin de se déplacer et donc notamment ça réduisait les risques d'aller être potentiellement en contact avec le virus dans la salle d'attente de son médecin. Donc ça, c'est un avantage indéniable que tout le monde a compris, je crois. Mais ça peut aussi être utile ou être précieux dans un certain nombre de situations. Je pense aux déserts médicaux, des régions, des endroits où c'est plus compliqué de trouver un médecin, ou alors il faut faire 10, 15, 20, 30 kilomètres pour un médecin. Si on peut le consulter à distance, c'est quand même assez précieux. Ça peut aussi être précieux si vous avez eu des jeunes enfants. Vous savez qu'un enfant qui a de la fièvre la nuit, ça peut être assez vite assez angoissant. Si on peut dialoguer avec un médecin en visio, on peut avoir quelques réponses, peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas certaines réponses qui peuvent être rassurantes dans ce type de situation.
Alors, certains se demandent évidemment comment ça se passe, une téléconsultation concrètement, comment se passe l'auscultation, comment se passe également le paiement, la carte vitale, plein de questions que je vais vous poser dans un instant dans la suite de Nous Voilà Bien. Tout de suite, Benjamin Daurier.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous Voilà Bien, Flavie Flamand. Nous Voilà Bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
On note deux phénomènes pendant ce confinement ces dernières semaines. Le e-commerce, on en a parlé il y a un instant avec Armelle Lévy, mais également les téléconsultations. Je ne sais pas si vous avez eu justement l'occasion d'expérimenter la consultation à distance, mais on en parle avec Benjamin Daurier.
Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse.
Ça, c'est Michel Simès qui se vend en chanson et dans une reprise de Johnny, toute la médecine que j'aime, que je découvre ce matin. Formidable. Alors, est-ce que ça fait rugir la téléconsultation? En tout cas, ça vous a forcément intéressé pendant cette période de confinement. Est-ce que ça va maintenant rentrer, je dirais, dans nos mœurs de patients? Je ne sais pas. En tout cas, on en parle avec vous, Benjamin Daurier. Comment ça se passe, une téléconsultation, concrètement? Puisqu'il n'y a pas d'auscultation.
Non, effectivement, il n'y a pas d'auscultation, même s'il y a aussi quelques expériences avec des objets connectés dans certaines des cabines dédiées à la consultation chez certains pharmaciens ou dans certaines mairies. Mais bon, ça, c'est plutôt anecdotique, en tout cas pour l'instant. L'essentiel des téléconsultations, ce sont donc des consultations qui sont basées sur l'interrogatoire du patient. En tout cas, c'est comme ça que le formulent certains professionnels de santé qu'on a interrogés pour cette enquête. Donc, des consultations centrées sur le dialogue entre le patient et le médecin. C'est pas forcément... c'est pas une sous-médecine, nous disent les professionnels qu'on a interrogés. Dans 80% des cas, en tout cas là c'est un des professionnels qui nous a donné ce chiffre, 80% des téléconsultations ne nécessitent pas d'autres suites. Donc ça veut dire que la téléconsultation a rempli son œuvre et c'est seulement dans 20% des cas qu'il a fallu réorienter le patient soit vers son médecin traitant, soit vers les urgences. Donc effectivement, dans un certain nombre de cas, le dialogue patient-médecin suffit à résoudre le problème.
Donc dans ces cas-là, c'est tout aussi efficace qu'une consultation normale, quoi. Et ensuite, alors après une téléconsultation, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, il peut y avoir une ordonnance, hein, bien sûr, ça dépend des cas. S'il y a une ordonnance, elle va être mise à disposition. Alors, généralement, il y a un espace sécurisé qui est généralement géré par la plateforme de téléconsultation qui va vous permettre donc de récupérer l'ordonnance, ou elle peut être transmise directement à votre pharmacien habituel si vous donnez son adresse. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qui sont prévues.
Quid de la carte vitale ?
Alors forcément, on peut pas la donner à distance, mais il faut au moins donner son numéro de sécurité sociale, ce qui permettra au médecin à distance de vérifier que vous êtes bien couvert par l'assurance maladie. Il faut quand même préciser que en temps normal, hors période d'épidémie, les téléconsultations sont quand même essentiellement dans le cadre du parcours de soins. Ça veut dire avec vos médecins habituels, les médecins que vous connaissez. Donc effectivement, généralement, ils vous connaissent déjà.
D'accord, ok. Comment je paye justement ? Je dis à mon médecin en téléconsultation, je vous paye la prochaine fois que je vous vois.
Alors bah, ça c'est à lui de vous dire ce qu'il accepte comme de paiement. Ouais. Il peut vous permettre le paiement en ligne, hein, comme un achat en ligne, tout simplement en rentrant son numéro de carte bancaire sur une plateforme sécurisée. Il peut éventuellement, ça dépend des médecins, permettre le paiement par chèque que vous allez lui envoyer par la poste. Donc là effectivement c'est au médecin de dire les modes de paiement qu'il accepte.
Est-ce que la téléconsultation peut être remboursée à 100%?
Alors là, il y a différentes cas de figure. Effectivement, c'est très important de les différencier. D'abord, pour ce qui est de l'épidémie, l'assurance maladie a décidé au début du confinement que les téléconsultations liées à l'épidémie étaient remboursées à 100%, sans aucune contrainte. Donc ça, c'est pour les téléconsultations liées à l'épidémie. Mmh. En revanche, en temps normal, ou une téléconsultation qui n'est pas liée à l'épidémie, elle sera prise en charge par l'assurance maladie à condition de rentrer dans le parcours de soins. Donc ça veut dire que soit la téléconsultation se produit avec votre médecin traitant, votre médecin habituel, ou alors on est dans un cas où le médecin traitant n'est pas disponible, un cas d'urgence, où vous êtes en déplacement dans une région qui n'est pas celle où vous avez votre médecin traitant. Mais il faut être à suivre les règles du parcours de soins classique pour être remboursé. Et puis il y a quand même une troisième situation qui se développe, c'est il y a aussi un certain nombre de cas où la téléconsultation va être prise en charge non pas par la sécurité sociale, non pas par l'assurance maladie, mais par votre complémentaire santé. Un certain nombre de mutuelles prennent en charge les téléconsultations parce que ça facilite la vie des patients tout simplement, et donc elles vont vous le rembourser. Dans ce cas-là, c'est pas la sécu, c'est la complémentaire santé qui le prend en charge, avec parfois des limites, un nombre maximum de téléconsultations, par exemple 5 maximum dans l'année, mais dans ce cas-là, c'est la mutuelle qui prend ça en charge.
Est-ce que c'est une forme de consultation qui va perdurer selon vous quand l'épidémie sera définitivement derrière nous ?
Oui, en tout cas, c'est. Oui, c'est ce que pensent tous les spécialistes qu'on a interrogés pour cette enquête qu'on publie dans notre numéro actuel. Il y a eu une vraie explosion là pendant le confinement. Le nombre de téléconsultations a été multiplié par 100 entre début mars et début avril. Donc c'est une vraie explosion. Bien entendu que c'était lié à la situation particulière du confinement, mais quand même, il y a un certain nombre de personnes, autant des patients que les médecins, qui se sont rendus compte que techniquement, oui, ça peut fonctionner. Bien sûr, ça ne répond pas à tous les besoins. Il y a bien entendu de nombreuses consultations qui nécessitent de voir physiquement son médecin. Ça ne convient pas non plus à tous les patients. Mais quand même, l'épidémie risque de marquer le vrai décollage de la téléconsultation en France.
Dernière question, Benjamin Dourier. Le matin, au petit-déj, vous prenez quoi ? Du thé ou du café ?
Ah, plutôt du café pour moi.
Alors ça, c'était pour vous la semaine dernière. Mais là, cette semaine, on s'intéresse au thé dans un instant avec Christine Dattner. Merci beaucoup. Restez à notre écoute quand même. Vous allez sûrement découvrir des choses passionnantes. Benjamin Dourier, merci. Je rappelle que 60 millions de consommateurs est actuellement en kiosque et se penchent sur énormément de choses passionnantes, et notamment les téléconsultations dont on vient de parler. Prenez soin de vous. À bientôt, Benjamin. Merci.
À bientôt.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Je nous vois déjà chez nous, buvant du thé sur mes genoux.
Un thé pour deux de Jacqueline François et d'Henri Decker. Bonjour Christine Dattner.
Bonjour Flavie, bonjour à tous les auditeurs d'RTL.
Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Oh là là, c'est passionnant, vous êtes écrivaine et vous êtes créatrice de mélanges de thé.
Oui, c'est ma passion depuis un peu plus de 40 ans.
Ah, génial. C'était une découverte pour vous, le thé. Qu'est-ce qu'il y a de si passionnant dans le thé?
Bah, le thé, la découverte du thé, d'abord, c'est la boisson la plus bue au monde après l'eau. On a aujourd'hui pratiquement tous les continents qui peuvent produire du thé. Donc, ce sont des découvertes qui n'en finissent jamais. J'ai découvert des thés du Rwanda, des thés même de Colombie dernièrement. Enfin bon, on a du thé sur tous les continents et c'est passionnant. Voilà.
Ah bah ça, j'imagine, si vous en avez fait votre métier. Mais c'est quoi le thé exactement?
C'est un petit arbuste. En fait, qui s'appelle le théier, qui est issu de la famille des camélias. On a plutôt deux types de camélias, le camélia sinensis qui est le camélia chinois qui pousse, qui se plaît davantage en altitude, et le camélia assamica qui lui pousse en Inde dans la province d'Assam d'où il tient son nom. Et depuis, on a fait des cultivars, on a fait des hybrides dans d'autres pays du monde.
D'accord,
le théier se plaît en fait dans des climats tropicaux et subtropicaux.
Très bien. Et il en existe beaucoup de variétés de thé?
De thé, oh là là, oui, il y a un proverbe chinois qui dit qu'il faut plus d'une vie pour découvrir rien que les thés chinois. Il y en a plus de 10 000 rien qu'en Chine. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on a du thé un petit peu sur tous les continents. La fourchette, moi, c'est ce qui me passionne parce que ça ne s'arrêtera jamais. Je découvre des couleurs différentes, des manières de produire encore. Ça s'améliore, ça change. Bon, c'est impressionnant, impressionnant.
Alors, on va se retrouver dans un instant justement pour rentrer davantage dans l'impressionnant. Vous allez nous parler du thé noir, du thé vert, du thé blanc. Est-ce qu'il peut être parfumé à tous les goûts, en sachet ou en vrac? Est-ce que c'est pareil? Bon, bref, toutes ces questions-là, je vous les poserai dans un instant, Christine Dattner. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous prendrez bien un petit thé? Bah oui, c'est l'heure du thé. Enfin, c'est pas tea time, mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que c'est délicieux et qu'on a plein de choses à apprendre sur le sujet avec Christine Dattner.
J'étais passé pour prendre un thé, caramel ou vanille. Bah non, j'ai plus que vanille.
L'heure du thé, chantée par Vincent Delerme. Christine Dattner, vous êtes créatrice de mélange de thé, vous êtes écrivaine, vous avez écrit un livre, Les couleurs du thé, aux éditions Duchesne, et vous venez de nous expliquer qu'il y a une multitude de thé, c'est ça qui est passionnant. Qu'est-ce qui distingue le thé noir, du thé vert, du thé blanc?
Alors, c'est uniquement la manière dont on va cueillir les feuilles et travailler les feuilles, donc le travail de l'homme après la cueillette. Donc on a d'abord le thé blanc, le prestigieux thé blanc, qui est uniquement le bourgeon terminal qu'on fait sécher au soleil. Ensuite, on a la variété des thés verts qu'on peut travailler de différentes formes, feuilles roulées, feuilles aplaties, feuilles roulées sur elles-mêmes, roulées dans la longueur, etc. On a le thé vert. Et ensuite, on a la famille des thés qui subissent une fermentation. Donc ce sont ces mêmes feuilles qui sont placées dans des chambres de fermentation et qui s'oxydent, tout simplement. Et en fonction du temps passé dans la chambre de fermentation, on va obtenir des thés bleu-vert, donc qui sont plus proches des thés verts que des thés noirs. Et au bout de quelques heures, le thé noir. Voilà, mais tout est la même plante.
Alors, tout est la même plante. Est-ce qu'ils ont la même puissance, je dirais? J'ai le sentiment, moi, quand je vous écoute, j'ai le sentiment qu'un thé blanc sera peut-être un peu plus subtil, mais peut-être que je me trompe. Qu'un thé noir. D'accord.
Non, un thé blanc, c'est juste le bourgeon terminal. C'est chaud au soleil, c'est très léger, c'est très floral.
C'est ça.
Vous avez une infusion très, très claire. Néanmoins, il est très, très riche en antioxydants, en vitamine A. C'est très bon pour la santé. Et le thé blanc, vous pouvez le réinfuser plusieurs fois, contrairement au thé vert.
En sachet ou en vrac, c'est pareil le thé?
Alors, c'est mieux en vrac, vraiment. Ouais. Ça revient moins cher, bien sûr, parce qu'avec 100 grammes de thé, vous avez normalement 50 tasses, il est bien dosé. Et puis du thé en vrac, je vous dis, c'est entre 5 et 8, 9 euros les 100 grammes. Et là, vous avez
quoi
ça au kilo, oui. Vraiment.
Bio ou pas, ça change quelque chose?
Alors, au point de vue goût, bien sûr que non. Tout l'été, de toute façon, c'est hors communauté européenne, donc l'été, même l'été non bio, subissent trois contrôles pour vraiment faire attention aux pesticides et à tout ce qui pourrait ne pas être réglementaire sur la communauté européenne. Donc c'est très très sévère. Donc c'est pas ce que vous buvez. Hein. Alors on a du thé bio dans certains pays. C'est une politique gouvernementale, notamment en Corée du Sud, on ne font que du thé bio. Le Rwanda, moi j'importe du thé de Rwanda, il est bio également. La Colombie aussi, le Vietnam. Et puis certains pays font du bio et du non bio. Mais ça change pas le goût en fait.
Est-ce que tout le monde peut boire du thé, même les enfants?
Oui. Alors, pour les enfants, je pense que le mieux, c'est le détéiner peut-être. Essayer de détéiner naturellement. C'est très, très facile. On fait un premier passage de l'eau sur les feuilles. Ensuite, on enlève ces feuilles de thé. On vide, on jette la première infusion, si vous voulez. On recommence. Et cette fois-ci, il y a 80% de la théine qui a été absorbée par le premier passage de l'eau.
OK. D'accord. Donc, et là, ça on peut le faire goûter aux enfants.
Bien sûr. Et si vous avez besoin d'un thé, quelle que soit la couleur en fin de journée, vous n'aurez pas de problème pour vous endormir.
Est-ce qu'il y a des contre-indications au thé?
La seule que j'ai déjà rencontrée, c'est l'absorption du fer. Donc, si vous avez des problèmes de fer, vous arrêtez de boire du thé 45 minutes avant le déjeuner ou le dîner et vous recommencez que 45 minutes après. Donc, pour espacer l'absorption du thé avant les repas et après les repas.
Ça se conserve comment, le thé?
Plutôt dans une boîte en métal, à l'abri de l'air et de la lumière. Et puis, vous pouvez le garder 3-4 ans sans souci.
Ok, donc 3-4 ans, même s'il y a une date de péremption sur la boîte,
c'est un produit sec, hein, donc s'il a été bien protégé, ça ne s'abîmera pas. Si c'est un thé aromatisé, bien évidemment, il va perdre un peu de son arôme, c'est évident. Mais pour des thés classiques, il n'y a pas de problème.
Allez, dernière question, le thé dans le lait, c'est un sacrilège ou pas, Christine?
Vous savez que ça a été inventé par une Française, on dit toujours les Anglais avec...
Mais exactement.
Bien sûr, au XVIIe siècle, Madame de la Sablière, qui avait reçu une magnifique service en porcelaine de Chine, avait décidé de mettre un petit peu de lait dans le fond de sa tasse pour éviter que le thé que l'on versait dessus éclate sa porcelaine. On a quand même fait des études sur le lait dans le thé et on s'est rendu compte il y a quelques années que le lait pouvait casser quelques bienfaits du thé. Alors, il vaut
c'est
mieux
pas
le boire sans lait.
Voilà,
mais certains Anglais vous diront qu'un bon assam révèle tout son caractère avec un petit nuage de lait. Alors pourquoi pas, il faut se faire plaisir.
Eh bien, c'est surtout ça, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Christine Dattner. C'était super intéressant. C'était passionnant. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et à très bientôt, je l'espère, sur RTL, votre dernier ouvrage, Les couleurs du thé, aux éditions Duchesne. À bientôt, Christine.
Merci beaucoup, Flavie. À très bientôt. Au revoir.
Des bisous.
Nous voilà bien, c'est déjà fini. Oh, mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Oui, et puis pour prendre votre mal en patience, eh bien vous pouvez nous retrouver en replay sur rtl.fr et en podcast sur toutes les plateformes dédiées. On se retrouve quoi qu'il arrive lundi également à 14h30 pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Moi, je vous souhaite à tous un excellent week-end, évidemment à l'écoute d'RTL. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.